Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Alex, bonjour.
Bonjour.
Et Seb.
Salut.
Tous deux, vous êtes ici pour nous présenter la prochaine mouture des transversales qui aura comme thème « Pour en finir avec 3 points de suspension ». Alors, pour en finir avec quoi ?
Avec ce que les gens veulent, en fait. Toi, tu peux peut-être mieux en parler que moi, puisque c'est Seb qui est à l'origine de la thématique.
Ouais, alors pour en finir avec, ça vient d'un titre d'une émission de radio diffusée d'Antonin Artaud qui s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu », qu'on a repris et qu'on a gardé donc le début. Donc ça renvoie autant à cette émission qui parle beaucoup en fait donc pour en finir avec en gros la rationalité et toutes ces choses là liées à une vie un peu étriquée, on va dire. Donc ça, c'est le thème principal. Après, on s'est dit que c'était bien aussi que les artistes qui veulent candidater puissent se servir du thème en interprétant comme ils veulent, en fait.
Voilà. Alors, je rappelle que les transversales est une manifestation d'art contemporain avec plusieurs modes d'expression, exposition, bien sûr, des performances, de la danse, du théâtre, des concerts, et le tout soit chez les habitants ou les commerçants.
Alors, il y a dans toujours... l'espace public aussi.
Et l'espace public. Il y a toujours un engouement pour le public à créer de vous accueillir.
Oui, vraiment, on a été surpris. En fait, c'est une manif qui est assez récente. C'est la troisième et dernière édition. D'ailleurs, on le voit sur le dossier qui porte le slogan « Toujours 203 ». C'était un jeu de mots sorti en réunion. On a l'habitude de sortir plusieurs slogans chaque année pour la même communication. Et dès la première année, on a eu environ plus de 1000 visiteurs sur le week-end pour aller voir les expos, les concerts, etc. Un grand engouement aussi donc du public, mais aussi des artistes invités. À savoir qu'on n'a aucun argent, on est autofinancé. La première fois, on est parti avec un budget de 200 euros et on a accueilli quand même une trentaine de plasticiens et une quarantaine d'intervenants autres au niveau culturel. Et puis même, il y a aussi des personnes qui font des conférences, etc. Donc un gros engouement des artistes, du public, de la population qui accueille les différents artistes. Dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur vitrine. Les artistes qui viennent de loin sont également logés chez l'habitant. Et puis là, c'est pareil, beaucoup d'engouement. Et au fur et à mesure, on essaye de faire ça dans des lieux différents aussi, d'une année sur l'autre. Et ça marche.
Alors, à l'instar des lieux d'art contemporain où on expose des œuvres sur des grands murs blancs, ici, ça répond plus à, disons, l'introduction de l'art contemporain chez le particulier. Et ça lui amène une nouvelle dimension à l'œuvre.
Oui, exactement. C'est pour ça aussi qu'on s'attache au terme de manifestation plutôt que de festival. Parce qu'il y a quelque chose d'engagé aussi, d'aller vers les gens, de créer une alternative, finalement, à ce que l'on voit d'habitude avec les galeries, etc. Mais ça ne nous empêche pas de présenter aussi des œuvres dans des galeries à créer. C'est vraiment pluridisciplinaire, pluriforme, mais avec cette idée d'art engagé et de nouvelles façons d'identifier la culture. Et effectivement, le rapport est différent au niveau du regardeur, par exemple, pour une expo. Il est différent et on peut comparer ça aussi avec un concert en appartement. Le lien du public est différent. Le fait de se retrouver chez les gens, d'être accueilli différemment, effectivement, ça amène même souvent plus d'attention.
Les lieux publics qui vous accueillent sont lesquels sur, autour de Cré, par exemple ?
Les lieux publics, vous voulez dire l'espace public ?
Oui.
L'espace public, en fait, on fait une demande chaque année à la mairie. Et alors, on les utilise, on les a utilisés par le passé, surtout pour les inaugurations, en fait. Où l'année dernière, on avait demandé au Transexpress et à Compagnie Tonne d'organiser ça. Du coup, ça partait de l'insurgé, parce que le thème était l'insurgé. Et ça rejoignait un des lieux principaux de concerts et d'expositions. Donc là, pour cette année, ça va être le même procédé, donc inauguration sur l'espace public, et certainement d'autres lieux qu'on n'avait pas l'année dernière. On pense cette année investir les lavoirs, par exemple, et faire un parcours autour.
Une visite guidée un peu de la ville, une visite guidée un peu loufoque, mais pas complètement aussi, qui va s'asseoir, s'appuyer sur les lieux forts de la ville. Donc effectivement, les lavoirs, c'est des lieux importants pour l'histoire de la ville. Et on est très attaché à ce côté historique de la ville et de ce que ça nous amène. Et donc là, on va avoir un partenariat certainement avec l'Office du tourisme, en tout cas une personne de l'Office du tourisme, qui fait d'habitude des visites guidées pour le public, pour l'histoire de Cré, et qui va arranger cette visite guidée pour les transversales.
Les artistes qui sont présélectionnés ou sélectionnés par vous répondent à quelques exigences de votre part par rapport à l'espace, justement.
Alors, l'exigence principale, c'est l'autonomie. C'est quelque chose sur laquelle on est assez exigeant, mais parce que ça fait principe, ça fait principalement partie des transversales, dans le sens où nous, on est partis au début, on avait une équipe de 5, comme je vous disais, aucun financement, etc. Et donc, on s'attache à ce que les gens soient autonomes, aussi bien les artistes invités, mais aussi les personnes qui accueillent des événements ou des expositions. Et il y a un côté aussi qui fait que les gens... Donc nous, on les soutient quand même, hein. On les accompagne, on les guide, etc. S'ils ont besoin d'un coup de main de bénévole pour l'installation, etc., en amont. Mais c'est voulu aussi pour que les gens soient autonomes et que par la suite, s'ils aient envie de réaliser des choses chez eux, eh bien, qu'ils se sentent capables de pouvoir accueillir des événements, organiser des événements. Et on s'est rendu compte que ça marchait, qu'il y avait de plus en plus de gens qui osaient ouvrir leur jardin, leur maison pour des spectacles et des concerts, etc.
Donc il y a les expositions et puis les performances. Est-ce qu'on lie justement à ce genre de visite guidée, par exemple ?
Oui, tout à fait, ça peut l'être, hein. Et puis là, par exemple, la contrainte de cette année, c'est que le thème est assez large quand même, pour en finir avec trois petits points. Mais on essaye de sélectionner des œuvres ou des formules qui correspondent, qui ont un lien quand même avec ce thème.
Je revenais pour en finir avec, et vous disiez tout à l'heure que c'était la troisième édition des transversales, et la dernière, vous comptez arrêter ou...
Non, on ne compte pas arrêter en fait, mais... On va en tout cas arrêter cette formule de rendez-vous annuel pour une manifestation, donc sur un week-end. Donc certainement qu'après, les actions seront plus dans l'année, et on n'a pas encore trop réfléchi à vrai dire à l'après. Mais oui, non, on va pas arrêter comme ça non plus, quoi.
Alors, vous utilisez, comme vous disiez tout à l'heure, des petits slogans autour de ce festival, et toujours 203. Alors, pourquoi celui-ci ?
Parce qu'il y a toujours un côté absurde qui vient avec le côté transversal aussi, le nom transversal, la transversalité des idées et tout ça. On est très inspiré personnellement par dans le groupe, là, par les situationnistes, par Dada, par tout cet univers-là. Et donc, la plupart des slogans sont un peu farfelus. Là, on a l'habitude de dire « jamais 203 ». Et puis là, c'est parti comme ça en réunion. Et puis, on a trouvé que pour illustrer le propos du dossier de présentation, ça tombait bien, puisque justement, c'était la troisième et dernière édition. Et souvent, par exemple, l'année dernière, on en avait carrément une vingtaine de slogans. Donc, c'est des choses que l'on trouve entre nous, en parlant, en réunion, etc., on retient toujours quelques idées. Puis par exemple, l'année dernière, il y avait la moitié des slogans utilisés qui venaient en fait du Dauphiné et des fameuses pages jaunes du Dauphiné qui annoncent la une locale. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait créer la garde contre les crottes de chiens est déclarée. Donc c'est quelque chose qui, en dehors du contexte, est assez saugrenu et on aime bien.
La contrepétrie aussi.
On n'a pas trop eu recours ni au calembour pour l'instant, mais on va réfléchir cette année. On fonctionne sous forme de brainstorming, donc on verra comment ce qu'il va y avoir.
Et c'est par rapport au thème aussi, on essaye de se coller au thème.
Une petite parenthèse, je vois sur votre dossier, l'officine, qu'est-ce que c'est ?
Officine, en fait, c'est le nom de l'association qui porte les transversales. Elle est née il y a 3-4 ans suite à un off pour le festival de Freak Show à Gigor qu'on avait proposé d'organiser. On en a organisé deux comme ça et après on s'est monté en association et on a organisé des petits concerts à droite à gauche, à l'ICAM principalement. Et au bout d'un moment on s'est dit que c'était bien d'investir un peu la ville de Cré qui voilà, culturellement vivotée, on va dire quoi. Voilà.
Tous deux, vous êtes vous-même artiste ?
Oui.
Plasticien ou musicien ?
Plasticien, graphiste, musicien. Voilà. Un peu.
Et vous exposerez vous-même
Cette année, on s'est dit que non. On a fait les deux premières et ça vient aussi du slogan toujours 203. On s'est dit que cette année, on n'allait pas reproduire les artistes qui ont déjà été invités deux fois. Et donc, ben, c'est notre cas. Et puis finalement, on est déjà bien occupé, donc c'est pas mal.
Alors comment vous opérez pour trouver des artistes qui vont venir chez vous ?
En fait, on a un réseau. Depuis des années, on baigne dans le milieu de l'événementiel en général. Et sur toute la région, de la région Rhône-Alpes, même Grand Est, on va dire. Et ce réseau, ben, il s'étend et puis les gens en parlent, etc. Et donc c'est une sorte de spirale comme ça qui fait qu'on arrive, à même sans moyens, à attirer du monde.
Ben, grâce à la radio, grâce à la presse, aux réseaux sociaux sur Internet, etc.
Vous avez communiqué avec Radio Saint-Ferréol aussi, je suppose.
Oui, son partenaire,
Très bien, oui. Et justement, il y aura des captations sonores
Il va y avoir
en direct aussi.
Oui, il va y avoir des oreillettes, il va y avoir des captations. Il va y avoir certainement dans le parcours guidé, la visite guidée, il y aura certainement des postes radio disséminés un peu de partout qui vont animer la visite guidée.
Alors on parle de radio, on parle de musique aussi, et des concerts, vous en prévoyez, et qui seront là ?
Il y aura une vingtaine de concerts à peu près, comme chaque année. Comme tête d'affiche, on va avoir une parisienne qui s'appelle Mademoiselle, qui fait une électro, c'est une diva en fait, une voix de diva qui fait une électro. Qui est-ce qu'on va avoir ? On va avoir pas mal de Lyonnais et de Grenoblois. Donc chez les Lyonnais, il y a un groupe psychédélique, The Wow Signal. Il va y avoir chez les Grenoblois des gens qu'on aime bien, c'est les gens de Churros Bâtiment. Et pour en revenir à comment on fait venir les artistes, on s'appuie aussi sur des collectifs qui sont déjà en place en fait. Et donc ces collectifs, ils entraînent plusieurs groupes ou plusieurs disciplines, etc. Donc dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, en fait, on touche tout de suite un large panel. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à attirer tous ces gens.
Alors, à l'heure actuelle, puisque la manifestation est prévue du 30 mars au 1er avril 2018, vous êtes en demande actuellement pour préparer cet événement. Et quelles sont ces demandes, par exemple ?
Là, c'est essentiellement, donc au niveau de la programmation musicale, c'est quasiment bouclé. Par contre, on cherche encore des plasticiens. Et surtout des intervenants, petite forme, soit en cabaret, soit en performance, etc. C'est art de la rue. Là, c'est ce que nous recherchons en priorité pour justement occuper l'espace public.
Et des bénévoles aussi.
Des bénévoles, voilà. Et ça engage combien de personnes pour organiser ?
L'année dernière, il y avait 42 bénévoles.
Sur les dates même, hein, sur les
ouais,
dates
voilà.
Même. Mais dans l'année, par exemple, il y a combien de personnes qui œuvrent ?
Ah, l'année, on est... on a commencé à 5 et puis là, on est à peu près une quinzaine. Là, on commence au début en petits groupes. Puis ensuite, on installe des commissions. Et après, ces commissions deviennent autonomes, suivant la commission bouffe, commission communication, etc., etc.
Et je voulais savoir, le terme mutualisation existe aussi vers chez vous ?
Ouais, beaucoup, beaucoup.
Et particulièrement pourquoi ?
Oui, on a une vingtaine de partenaires aussi qui nous aident énormément. Donc on a parlé de Radio Saint-Fé, mais on a aussi Gigor Electric, par exemple, qui organise le Freak Show, entre autres, etc., qui nous fournit beaucoup de matériel, des pendrillons, etc. Et on s'appuie énormément là-dessus. Ouais. Même Emmaüs, par exemple, hein, voilà, il y a une nouvelle ressourcerie à créer qui s'appelle Lord Ebène. Et donc avec eux, on s'est déjà entendu et il va y avoir un brassage comme ça entre eux et nous et pour de la vaisselle, pour du petit mobilier, etc., etc.
Ces lieux, donc comment vous les habilitez, soit chez les commerçants, soit les habitants, vous leur donnez un aspect d'accueil pour le public
Non, ça c'est vraiment, encore c'est une fois, c'est du cas par cas et l'autonomie des gens qui accueillent. Ils accueillent un peu, nous on les guide, mais ils accueillent à leur façon et c'est ce qui est sympa. Par contre, on a aussi dans la manifestation ce qu'on appelle des temps forts. Donc ce sont des vernissages et des moments dans la journée où il y aura un rassemblement de gens pour ces concerts, etc. Donc là, on met un peu plus la main à la pâte, on investit un peu plus les lieux.
Et ce sont des lieux d'espace public, hein, justement.
Pas toujours, des pas fois toujours. Ça va être des gens qui ont des grandes caves, ça peut être une friche, ça peut être dans la rue, effectivement, ça dépend.
Ça produit quoi chez l'habitant ou le commerçant de recevoir une exposition ou un artiste qui s'introduit chez lui et qui amène son univers, comment c'est perçu ça ?
Ça produit qu'en tout cas ils reviennent depuis 3 ans, on retrouve souvent des demandes d'habitants ou de commerçants pour revenir pour les transversales. Généralement ça se passe très bien, des liens se créent souvent avec les artistes ou les habitants parce qu'aussi on cherche souvent des habitations pour loger tout ce beau monde.
C'est une demande ça aussi de trouver l'hébergement chez l'habitant, ça
c'est
vous
une
le
demande,
formulez
effectivement ouais. Donc on a une commission qui est une commission logement donc pour ça et oui généralement ça se passe en autonomie on va dire on a quand même une sorte de petit commissariat d'exposition surtout pour les gros lieux qui accompagnent les artistes pour la scénographie, etc. Mais ça pose en tout cas très peu de problèmes.
Et Seb, je ne sais pas si tu m'as répondu à la question tout à l'heure. Toi-même, tu es artiste, plasticien ?
Oui, je suis plasticien et musicien. Et bon, après, là, pour l'événement, on est plus porteur de projet qu'autre chose, mais voilà.
Vous êtes passé par des écoles d'art, je suppose ? Ou des...
Moi, j'ai fait un an de beaux-arts, mais je viens plutôt de la faculté de philosophie. Mais...
Non, moi, je suis autodidacte. J'ai fait mes premières armes à 10, d'ailleurs, en bossant pour Jacques Coutureau et la compagnie des Oiseaux de Passage. Et donc, je m'étais un peu formé un petit peu en amont. Je viens d'une génération où il y avait encore l'objection de conscience. Et donc, j'ai été objecteur de conscience au CNAC de Grenoble, le Centre National d'Art Contemporain de Grenoble. Bleu. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes. Et puis après, tout s'est fait sur le tas.
Quelle est la... Mince. Quelle est la position de David Decret par rapport à cet événement ? Est-ce que vous êtes soutenu ou alors il y a un désintérêt total ?
C'est compliqué. C'est étonnant. C'est la mairie de Cré, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, donc pour la deuxième édition, avec Seb, on a pris rendez-vous avec le service culturel de la mairie. Et étonnamment, nous avons déjà pas été invités par le service culturel, mais par le service patrimoine. Et en fait, ils nous ont fait venir pour nous dire qu'il fallait déplacer la manifestation à une autre date, parce que c'était en même temps que la journée des patrimoines, l'ouverture des métiers d'art et du patrimoine. Et donc, ça les gênait qu'il y ait deux manifestations en même temps. Et nous, on leur a appuyé l'inverse, que c'était très bien que justement les gens allaient voir certains artisans et puis 10 mètres plus loin, ils avaient accès à une exposition et que ça faisait une émulation dans la ville, ce qui s'est tout à fait avéré d'ailleurs. Mais c'est vrai que de leur côté, ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de réinvestir la ville. Il y a ce côté engagé qui est très important pour nous, parce qu'il y a une force incroyable au niveau des gens de la vallée, artistique et au niveau de l'accueil, etc. Il y a énormément d'intermittents, il y a énormément d'artistes, il y a énormément de techniciens du spectacle, etc. Et donc, notre constat, c'était qu'il y a une force incroyable autour de cette ville. Et de plus en plus, les choses se faisaient en dehors de la ville. Et donc, le propos des transversales, c'était à nouveau réintroduire la culture dans la ville. Et heureusement, finalement, ça porte ses fruits là aussi, puisqu'il y a de plus en plus de choses qui se repassent dans la ville de Cré. Des concerts, donc soit chez les gens, soit les bistrots du coin, ce qui ne se faisait plus à une époque.
Le kiosque, vous le sollicitez, vous aussi, ce lieu-là, par exemple ?
L'ancien kiosque du Transexpress. Alors voilà, ça c'est notre gros souci en ce moment, c'est que on a besoin d'un lieu qui accueille 500 personnes par soir pour les concerts. Donc jusqu'à présent, on s'est toujours retrouvé dans des structures. L'année dernière, la première année, c'était dans une ancienne usine de Card. Puis c'était un peu moins gros, on accueillait 350-400 personnes par soir. L'année dernière, on a occupé un lieu de travail qui s'appelait La Forge, où ils faisaient de la menuiserie puis de la métallerie. Un grand lieu qui nous a permis d'accueillir 500 personnes. Et cette année, par contre, La Forge n'existe plus, puisque ça a été repris par l'Ordre d'Ébène. Et donc, nous cherchons un lieu capable d'accueillir 500 personnes et qui soit plutôt à l'extérieur de la ville pour des raisons qu'on entend au niveau du bruit, etc. Et là, pour l'instant, on galère vraiment pour trouver un ancien entrepôt ou quoi que ce soit de cette sorte. Et donc, en dernier recours, on a déjà demandé si l'espace Saint-Jean, comme il s'appelle maintenant, était disponible. Donc, on sait qu'il est disponible, mais d'une part, c'est très cher. Et d'autre part, on ne veut pas trop rentrer dans cette histoire où c'est un lieu public qui a été racheté par un privé pour se faire du business avec des structures qui ont été montées par le Transexpress et à l'origine avec des fonds publics qui revenaient de la DRAC, etc. etc. Donc ça encore, c'est une goupille de Mariton et ça nous embêterait de terminer là-bas. Mais sait-on jamais, si on ne trouve pas d'alternative, voilà.
Je voulais revenir ensuite à la programmation du théâtre. Ce sont des artistes que vous connaissez ou alors vous connaissez leurs spectacles et vous les sollicitez pour rejoindre ?
C'est un peu les deux en fait. On a des propositions via l'appel à candidature et puis après il y a des choses qui se construisent en amont aussi. Là par exemple, on risque certainement d'avoir une classe d'hôtellerie, CAP, où tous les élèves vont travailler sur le thème. Il y a des petits spectacles qui sont en train de se préparer, peut-être de Liskasatsa, c'est ça. La musée errante qui en profiterait pour un peu annoncer leur événement qui vient dans les jours après les transversales. Voilà.
Je vois les affiches sont toujours du même artiste. C'est vous, ouais. Alex B.
C'est ça.
Vos inspirations graphiques, elles viennent d'où ?
Waouh. Moi, ouais, mes premières inspirations, elles viennent de comme on disait, un peu Dada et tout ça, cet univers-là. Alors pour les transversales, c'est un peu différent de ce que je réalise d'habitude, puisque là, on est plus sur le mot, et que d'habitude, je suis plus sur vraiment l'image, avec des collages. Sur une seule image, je pratique plusieurs disciplines, que ce soit de la photo, avec du collage, avec du grattoir, avec du dessin, etc. etc. Trouver des vieilles gravures. Là, le contexte est différent. Et donc, on joue avec les mots sur cette communication des transversales. Et puis, le but aussi, c'était qu'elle nous coûte le moins cher possible. Donc, elle est en noir et blanc avec une impression sur papier de couleur. Et la diversité des slogans qui fait que quand on se retrouve dans la rue, on va retrouver un papier coloré avec toujours la même typo, mais qui va dire autre chose. Et puis en fond, là, on retrouve une notion de plan de la ville pour exprimer le territoire.
reviens un petit peu sur Artaud. Pourquoi cet intérêt pour Antonin Artaud?
C'est déjà un intérêt pour moi, en tout cas personnel. C'est un thème qu'on a déjà proposé pour l'année dernière. Et puis, l'insurgé, c'était quelque chose qu'il fallait faire quand même par rapport à l'histoire de la ville. Donc, c'est un thème qui est revenu cette année. Artaud, c'est quand même une figure qui est largement oubliée, enfin peu connue et qui, à mon avis, mérite de l'être. Enfin, par exemple, pour en finir avec, il y a une notion qui s'appelle le corps sans organes qui a beaucoup été repris par des philosophes il y a une dizaine d'années, Gilles Deleuze et Félix Guattari, du coup, qui ont développé des concepts qui sont assez, performants à notre époque pour expliquer et se servir de plein de choses, en fait, vu comme le monde avance par rapport à l'ubérisation, etc. Les automatismes, en fait. Donc c'est des notions qui sont là pour parer un peu à tout ça.
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Antonin Artaud, qui est quand même une référence dans les milieux artistiques ou de la création, n'a pas cette répercussion dans la mentalité du public, par exemple ?
Pour ma part, je pense que ça tient pas mal à son histoire. C'est une personne qui a été internée pendant pas mal d'années, qui quand même développe une pensée et une forme théâtrale assez agressive et largement censurée à l'époque. Donc je pense que la plupart des gens à notre époque, où la mode est quand même assez frivole et légère, ont peur de ce genre de figure, quoi, même s'ils développent un univers assez pertinent au final, quoi.
Oui, et puis c'était un précurseur, et comme beaucoup de précurseurs, c'était pas évident de se faire remarquer à l'époque. Puis effectivement, sa folie n'a pas aidé les choses. Mais c'est vrai qu'elle correspond tout à fait au transversal, dans le sens où il a initié de nouvelles formes d'art et de propositions et d'expression. Pour moi, c'est un des premiers gars qui a inventé l'art de la rue, par exemple, hein, en France, bien avant les années 60. Bien avant les années 60 et le Grand Magic Circus, par exemple, pour ne nommer que lui.
On va revenir un petit peu aux candidatures. Vous ajoutiez que vous étiez en recherche d'artistes plasticiens encore. Sinon, pour le reste de la programmation, vous avez arrêté votre...
Non, il y a pas toujours. Sauf pour la musique, où là, on commence à être bien, bien dans les clous. Toute autre proposition artistique, mais même intellectuel en général, s'il y a des gens qui ont des conférences, s'il y a des conférenciers qui sont prêts à venir nous parler de leur thématique qui se rapproche avec la nôtre, pour en finir avec, on les accueille avec les grands bras ouverts. Et la dernière limite pour poser ces dossiers de candidature, c'est le 17 février. Et puis, pour répondre à cette candidature, vous nous écrivez un mail chez officine.ws@gmail.com. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Facebook assez facilement, soit en tapant officine, soit en tapant transversal.
Par rapport à la thématique que vous développez cette année, je vois que vous utilisez une référence littéraire, celle de Mille Plateaux, de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Pourquoi ce choix ?
Comme je disais tout à l'heure, c'est, je pense, un choix d'époque, enfin d'actualité qui veut ça. C'est des auteurs qui sont très à la mode en ce moment. Voilà, moi personnellement, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié pendant mes années de philo. Du coup, je trouve ça assez intéressant de faire le lien avec ce concept de corps sans organes qui vient d'une émission créée en 1947, qui fait un détour par un philosophe et qui maintenant revient un peu détourné encore. Via cette manifestation et puis d'autres expressions qu'on peut retrouver à notre époque aussi, quoi. Après, pour revenir à cette histoire culturelle, moi, quand je suis arrivé là, ce qui m'a étonné, c'est que c'est des propositions extrêmement pauvres et qui maintient un peu la ville en léthargie, alors que la ville demande tout autre chose. Donc, c'est compliqué. Enfin, je trouve ça surtout dommage qu'il n'y ait pas une sorte de dialogue ouvert avec des associations qui proposent peut-être pas une vision culturelle qui est celle de la mairie, mais qui, en tant que service public, devrait être ouverte à plus de formes que ce qu'elle propose, quoi, en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est toujours cette histoire de garder le pouvoir, etc. Mariton, il est là parce qu'effectivement, c'est un politicien et un vrai, et qu'il manie la démagogie comme quasiment personne, et surtout pas dans le coin. Et ça rassure beaucoup de personnes sur Cré. À savoir aussi, on en revenait avec cette histoire où les choses étaient décentralisées, mais également les habitants, c'est-à-dire que les jeunes, les intermittents, etc., ne vivaient plus sur Cré, mais dans les villages aux alentours, donc ils ne votaient pas forcément sur Cré. Et donc ça, c'était encore plus facile effectivement pour les personnes d'un certain âge, certains commerçants, etc., de voter pour Mariton, et souvent passer avec des gros scores. Ouais.
Tous deux, vous êtes musiciens, donc vous jouez ensemble ou vous avez chacun votre formation?
Non, toi t'as mis de côté un peu la musique, ouais, depuis quelques années, c'est ça? Moi, je m'y remets pour le coup avec des formations plus électroniques et aussi avec un guitariste. Et là, ça encore en cours de préparation, tout ça.
On pourra vous entendre pour ces manifestations?
Non, j'ai joué vite fait un peu l'année dernière sous forme de, enfin, avec une proposition DJ, mais là, on va vraiment s'atteler à tout le côté organisationnel. Donc, je pense qu'on va pas nous voir en tant qu'artiste.
Est-ce que vous pouvez donner un avant-goût musical de ce qu'il y aura pour la prochaine manifestation?
Il y a de l'électro, il y a du hip-hop, il y a de la chanson, il y a du rock dans tous ses états, qu'il soit psychédélique.
Tous les styles, classiques aussi.
Ouais, alors du classique, là tout de suite, j'ai pas l'impression. Mais ça pourrait, hein, avoir une proposition de concert baroque, ou, etc. Par exemple, on n'allait pas avoir l'église de Cré. On a demandé à l'église, enfin à la paroisse, d'obtenir l'église, l'ouverture de l'église pour la manifestation. Et malheureusement, ça ne va pas se faire, mais on pourrait très bien imaginer du coup des formules comme ça dans l'église de Cré, ça serait parfait. Ouais, ouais. Là, par contre, on va quand même réussir à obtenir l'ouverture d'un monastère qui est très, très ferme, assez refermé sur lui-même. Et les bonnes sœurs nous ont ouvert leurs portes et c'est un plaisir.
Pour fonctionner l'officine, vous vous retrouvez à raison de combien de fois par session pour pouvoir organiser et... opérer l'organisation?
Alors on s'est vu en septembre une première fois. On a reconduit donc à une quinzaine. On s'est revu 2-3 fois depuis. Et puis depuis, en fait, là, on fonctionne sous forme de commission, donc par petits groupes. Donc, comme je disais, commission logement, commission communication, etc. Donc après, là, le rythme des réunions, on va dire à plus grand nombre, ça va être tous les 2 mois. Par contre, on risque de faire une sorte de réunion, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, voilà, une réunion publique pour un peu accueillir tous les habitants qui souhaitent participer à cette manifestation et les commerçants et autres associations.
C'est transversal, vous rapporte un certain bénéfice financier qui permet de reconduire chaque année, ou c'est un nouveau départ?
Ça a été le pari de l'ouverture au prix libre et qui nous a permis de continuer jusqu'ici en tout cas. Mais sans plus, c'est à chaque fois le budget...
Il monte petit à petit,
mais on va dire qu'il monte de 200 euros en 200 euros.
Pour les personnes qui sont invitées, les artistes, comment ça fonctionne? Par exemple, ils arrivent à vendre des œuvres, par exemple?
Certains, l'année dernière, je crois qu'il y a une trentaine d'œuvres qui ont été vendues quand même. Donc nous, en plus, nous ne demanderons aucune commission sur la vente de ces œuvres. Et puis après, les personnes, les artistes invités, on les défraie. Et puis les musiciens, on leur file un minimum, plus un défraiement, par rapport à un défraiement de déplacement. Et on essaye du coup de compenser avec l'accueil, en étant le plus chaleureux possible et en leur proposant une bonne bouffe, etc. Les bonnes conditions d'accueil.
Pour communiquer, vous adressez bien au-delà de la région pour faire connaître cette manifestation.
Oui, parce qu'il y a des pôles d'art, des ressources et des lieux de diffusion pour ce type d'infos. Donc à partir du moment où sur le net on pose notre candidature, l'appel à candidature, après ensuite il est relayé sur tout l'Hexagone et même plus. Hein. Là on a une proposition du Mali, une proposition c'est assez fou, de Taïwan, oui, c'est un peu foufou, même si ouais, voilà, c'est la magie d'Internet. Ils n'imaginent pas qu'on n'a pas les moyens de défrayer leur déplacement.
La DRAC vous soutient ou...
On leur communique, et puis ça faisait partie des transversales là aussi, c'est qu'on ne demandait aucune subvention. Et c'était un choix d'être libre au maximum et puis de montrer qu'on pouvait être autonome, encore une fois.
Tous les modes d'expression que vous proposez donc pour cette manifestation n'a aucun tabou, par exemple.
Eh oui, c'était le premier thème des transversales. C'était le tabou, le questionnement sur le tabou. Et donc, effectivement, heureusement, nous n'avons pas de tabou.
Et c'est toujours vrai. Hein, et...
Oui, au maximum. Après, il faut qu'on arrive c'est toujours pareil, hein, la liberté de... Voilà, la liberté des uns s'arrête où celle commence celle des autres. Et donc, on essaye on essaye aussi d'avoir une image où, par exemple, la mairie ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir une image de casseur, de vandale, etc., etc. Donc, on s'auto-censure aussi par rapport à ça.
Cet événement, comment est-il perçu par la population ?
Oui, eh bien... Je crois que ça se passe bien parce qu'en fait, on va au-devant d'eux. On leur propose de s'impliquer, de devenir acteur d'un événement comme celui-là. Donc du coup, ça ouvre beaucoup de portes. Et les préjugés disparaissent assez rapidement quand on arrive à avoir une discussion, quand on arrive à avoir un échange. Ça se fait assez simplement. Chez les commerçants, entre autres.
Alex et Seb, merci d'être venus pour nous présenter.
Eh bien, merci à toi, merci à RDWA.
Voilà, la troisième.
Merci.
Voilà, et donc je rappelle, à venir le 30 mars et 1er avril 2018, pour en finir avec les transversales.
Allez, ciao.
Au revoir.
Interview.